Ma grand-mère ne manquait jamais d'avoir sur elle, au fond de ses poches ou de son sac à main, quelques douceurs à donner aux enfants qu'elle rencontrait. Toute sa vie, elle avait agi ainsi. Elle aimait plaire à tous et à chacun. Elle séduisit beaucoup de monde, sauf sa propre fille. Ma mère ne lui pardonna jamais de préférer le cinéma et le tennis à ses devoirs maternels. Ma grand-mère se rattrapa avec moi. Elle m'offrit, dans son âge mûr, la tendresse qu'elle n'avait pu accorder dans sa jeunesse à sa fille. Elle était pour moi une grand-mère gâteau. Elle me confectionnait de merveilleux cakes marbrés, des bouchées à la reine succulentes, des pâtes qu'elle pétrissait avant de les faire sécher sur le dossier de chaise qu'elle gardait à cet effet dans sa vaste cuisine. Bavarde, généreuse, elle me semblait, comme toutes les grand-mères, le contraire de ma mère, exigeante, sévère et impossible à satisfaire. À la saison des framboises, elle m'invitait à rassembler le plus grand nombre possible de camarades de jeu pour en faire la cueillette dans son jardin. Elle se réjouissait de nous voir barbouillés de rouge, riant de cette récolte abondante et nous encourageait à rester auprès d'elle, nous autorisant à utiliser ses draps blancs pour en faire des tentes, à jouer avec les poids de sa balance de cuivre, à nous déguiser avec ses chapeaux et ses foulards. Je crois bien que c'est son rouge à joues et son rimmel qui ont servi à m'essayer au premier maquillage. Son rouge à lèvres s'appelait rouge baiser. Je m'en tartinais la bouche et m'inventais des séductions futures. Elle était volontiers complice de mes rêves de petite femme. C'est elle qui me parla à la première des règles et des garçons qui vous coincent dans les coins. Je faisais du patin à roulettes devant chez elle et je me souviens encore d'un petit voisin tout blond qui courait après moi en essayant de m'attraper et de me couper les tresses. Ma grand-mère, que tout le monde appelait Mémé, était un personnage haut en couleur, vive, nerveuse, parlant trop fort et agitant les mains, comme une Italienne ou une Espagnole. Je ne lui ai jamais connu de cheveux blancs. Elle se teignit jusqu'à la fin de sa vie et mourut dans son lit, un jeune amant à ses côtés. Je voudrais mourir comme elle, en amoureuse. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Valentin Dedon et je suis ravi de vous retrouver sur Radio G pour un nouvel épisode d'Albertine, l'émission qui se souvient de nos grands-mères. De lundi par mois à 13h, en semaine impair, mais aussi quand vous le souhaitez sur radio-g.fr, on se souvient de nos grands-mères avec une ou un invité. Le contraire de sa mère, nous dit Lydia Flem, dans un livre paru au Seuil en 2004, « Comment j'ai vidé la maison de mes parents ». Une relation grand-maternelle que l'on devine complice, intime, femme à femme, grande femme et petite femme, maquillage, rouge à joues, à lèvres, les garçons, les règles, jusqu'au bout, une liberté amoureuse. Tout ce qu'une mère a peut-être parfois plus de mal à transmettre. Mais heureusement, il y eut la grand-mère. Heureusement, il y a les grands-mères. Et la sienne, les siennes, elle en parle, à côté de la mandoline et du frigidaire de son grand-père dans son premier roman paru en 2023 aux éditions Verdier. Tout le monde n'a pas la chance d'aimer la carpe farcie. Je suis très heureux d'accueillir dans le studio de Radio G l'écrivaine Élise Goldberg, actuellement résidence d'écriture à la maison Julien Gracq, au bord d'un bras de Loire à Saint-Florent-le-Vieil. Bienvenue Élise et merci d'avoir accepté l'invitation d'Albertine.
Bonjour Valentin, merci pour ton invitation.
Élise, première question rituelle de cette émission, c'était quoi le prénom de tes grands-mères ?
Alors, du côté de ma mère, c'est Léa, Laïa, mais je ne l'ai pas connue. Elle est décédée juste quand ma mère était enceinte de moi. Et puis, du côté de mon père, c'est Dina.
Donc, Laïa et Dina. Et donc, cette Dina que tu as connue, c'était quoi son surnom ? Comment tu l'appelais, toi ?
Je l'appelais Mamie, tout simplement. Elle n'aurait pas aimé qu'on l'appelle Mémé, elle nous l'avait dit d'ailleurs.
Ah, le mémé, il était connoté un peu trop vieillot.
Un peu trop vieillot, peut-être un peu trop campagne. Et puis, c'était quand même une femme coquette.
Donc, elle était coquette, Dina. Est-ce que tu peux nous la redessiner, nous dire à quoi elle ressemblait ?
Oui, c'est drôle parce que dans le texte que je suis en train d'écrire justement à Julien Gracq, je parle un petit peu d'elle, mais je me suis rendu compte que je parle un peu de son histoire, mais que je n'avais pas encore fait de portrait d'elle. Et je me suis essayée il n'y a pas du tout longtemps justement à cet exercice. Et donc, alors je peux te dire que c'était une femme qui n'était pas très belle, pas très grande. Elle avait une poitrine vraiment imposante qui donnait l'impression que c'était une femme plutôt autoritaire. Et elle était plutôt autoritaire. Et elle avait un nez qui n'était pas très beau, qui était cassé. Et dans la légende familiale, je ne sais pas du tout si c'est vrai, mais dans la légende familiale, il y a l'idée que quand elle vivait en Pologne, elle avait été victime de violences antisémites ou qu'on l'avait frappée. Et ça viendrait de là, le fait qu'elle avait un nez un petit peu abîmé. Et elle avait des yeux marrons. Et elle avait les sourcils, elle n'avait plus de sourcils parce que elle avait suivi la mode des stars hollywoodiennes qui s'épilent les sourcils et qui les redessinent. Et donc, elle redessinait ses sourcils tous les matins.
Et tu as assisté à ce geste de
Non, mais je me souviens avoir été intriguée et avoir posé la question à ma mère, comment ça se fait que mamie n'a pas de sourcils et a un trait de crayon à la place.
Ton regard d'enfant ou d'adolescente s'est arrêté sur cet endroit, sur ses sourcils.
Exactement.
Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur Dina, des souvenirs communs, des moments, des habitudes, un métier, qu'est-ce qu'elle faisait ?
C'était une femme très travailleuse. Elle avait travaillé dans la confection, comme beaucoup de juifs polonais à l'époque. C'était le cas aussi de l'autre côté de ma famille, d'ailleurs. Donc elle était comme son mari, d'ailleurs. Ils avaient été tailleurs tous les deux. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre ? Beaucoup de souvenirs autour de la nourriture. Certains que j'évoque dans le livre, mais c'était beaucoup autour de ça. Elle préparait beaucoup de spécialités, justement, juives polonaises. Et étant enfant, je me plaignais. Je trouvais qu'elle faisait tout le temps les mêmes plats et toujours servis, pas forcément de manière très jolie, toujours un peu dans des assiettes un peu archopales. C'était pas forcément très, très joliment présenté. Elle n'avait pas de la belle vaisselle ou alors elle ne la sortait pas forcément.
Ça manquait d'une esthétique à tes yeux, c'est ça ?
Oui, je trouvais que ça faisait très familial, mais pas très glamour.
Alors, il y a quelques mots-clés dont tu as déjà parlé par rapport aussi à l'histoire familiale, juive, polonaise, peut-être un exil, et des violences aussi. On parlait de son visage, de son nez cassé. Qu'est-ce que tu sais de ce qu'elle a subi ? Est-ce qu'il y a eu un partage, une transmission de ça sur cette histoire ?
C'est une histoire. Il s'est passé beaucoup de choses pour elle pendant la guerre. Elle a dû se cacher dans différents endroits. Et c'est drôle parce qu'à chaque fois que j'essaye de récapituler, je dois vraiment faire un effort, me replonger dans les notes que j'ai prises parce que la vision d'ensemble, à chaque fois, je l'oublie d'une fois sur l'autre. Je sais que à un moment. En fait, elle était venue en France juste avant la guerre avec sa fille. Elle vivait en Palestine avec son mari, mon grand-père. Ils avaient eu une première fille, donc ma tante Aviva, et ils étaient venus en France à Paris. Elle avait deux sœurs qui étaient déjà à Paris, qui étaient parties dans les années 30.
Donc elle vivait en Palestine et elle était venue en France avant la guerre, d'accord ?
Voilà, et elle était venue pour accoucher à Paris. Elle voulait, je crois, que son fils, mon père, ait la nationalité française. Et elle prévoyait de repartir ensuite en Palestine, rejoindre son mari qui était resté. Et la guerre a éclaté, elle est restée.
Donc, père est né à Paris juste avant la guerre et elle a dû rester, elle n'a pas pu repartir à cause des événements liés à la guerre.
Oui, d'accord. Oui. Et donc, elle a dû se cacher. À certains moments, elle était cachée à Paris. À d'autres moments, elle était près de Vendôme, dans un village avec eux, avec ses deux enfants. D'autres fois, elle a dû travailler, donc elle a laissé ses enfants dans une famille et elle est repartie à Paris. Et à un autre moment, et ça, c'est quelque chose que j'évoque dans le texte en cours, ils ont été dans un camp en France, à Vittel, qui était un camp très particulier parce que ce n'était pas un camp qui était géré par Vichy, mais qui était géré par les Allemands dans la zone interdite. Et c'était censé être un camp d'échange de prisonniers.
C'était des prisonniers qui n'étaient pas forcément destinés à être envoyés dans d'autres camps qu'on connaît malheureusement.
Exactement.
Mais qui faisaient un peu monnaie d'échange, c'est ça ?
Exactement. C'était l'idée que c'était des ressortissants de pays ennemis du Reich. Donc, par exemple, mes grands-parents, comme la Palestine était sous mandat britannique, ils avaient des papiers britanniques. Et à ce titre-là, en fait... dans un premier temps, ceux qui avaient des papiers britanniques, puis ceux qui avaient des papiers des États-Unis et ensuite d'autres pays encore, ils avaient la possibilité d'être notamment dans ce camp et avec l'idée de pouvoir être échangés avec des soldats allemands qui... Enfin, non, des civils, ça c'est très important parce que là, on parle de civils, des civils allemands qui eux-mêmes étaient détenus par l'Empire britannique.
D'accord, oui. Donc, le fait d'habiter en Palestine, ça lui donnait une singularité
et un intérêt,
intérêt en tout cas pour les nazis de pouvoir être échangé. Et du coup, effectivement, elle a été échangée, elle a pu retourner en Palestine.
Elle
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Tout à fait, oui. Et ils ont bénéficié d'un échange et sont partis en juin 1944. Du camp et ils ont pris un train et ils ont été échangés à Istanbul et ensuite ils sont repartis en Palestine.
Incroyable, c'est vrai que on a l'impression que c'est un, je suis pas du tout connaisseur précisément, mais on a l'impression que c'est aussi un espace un petit peu inconnu de
tout à fait. Je pense que oui.
Ça doit être intéressant d'aller creuser à l'intérieur de ça.
Oui, c'est une histoire qui est pas très connue.
Ce camp de Vittel, c'était, il y avait que ce camp-là qui était destiné à ça, j'imagine.
En France, je crois que c'était le seul. Après, il y a eu le camp de Bergen-Belsen qui a aussi, à un moment, été destiné à des échanges, mais qui n'ont pas toujours eu lieu. Certains ont eu lieu, d'autres pas. Dans le train, effectivement, compris mes grands-parents, il y avait aussi des détenus de Bergen-Belsen.
D'accord, très bien.
Une histoire assez complexe. Il m'a fallu beaucoup de temps pour débrouiller l'histoire. Et même là, c'est assez complexe.
Oui, j'imagine que retracer un petit peu tout ça, ça doit être labyrinthique.
Oui, un petit peu.
Et une fois rentré en Palestine, comment s'est construit après, longtemps après, quelques années après, avec ta naissance, comment s'est construit votre relation et est-ce qu'il y a eu aussi un partage direct, un dialogue direct avec elle sur cette histoire ? Est-ce qu'elle t'a raconté tout ça ?
Oui, j'étais peut-être un petit peu jeune pour lui demander vraiment de se poser toutes les deux et qu'elle me raconte vraiment et que je prenne des notes et que ce soit quelque chose d'assez cohérent et complet. Enfin, complet, c'est jamais complètement complet. Mais elle me racontait assez volontiers. Les histoires de Vittel, moi, depuis toute petite, elle me racontait des anecdotes comme ça en passant, où je lui posais des questions et j'étais toujours très intriguée.
Il y a quoi comme anecdote, par exemple, sur la réalité de la vie dans ce camp, de ce qu'elle a vécu avec d'autres membres de ta famille, je crois ?
Moi, je me souviens surtout de petits événements comme le fait qu'elle était détenue au moment où ils étaient détenus à Vittel. Il y avait aussi un poète yiddish qui était très connu, qui s'appelle Yitzhak Katzenelson, et un journaliste qui était connu aussi, qui s'appelle Hillel Zeidman. Et donc, elle me racontait qu'elle les connaissait et aussi, elle me racontait des petites anecdotes comme, par exemple, quelque chose qui a l'air complètement anodin, qu'il y avait une aiguille. En fait, elle s'était blessée parce qu'il y avait quelqu'un qui avait mis une aiguille dans le papier peint. Et donc, elle s'était blessée, l'aiguille lui était rentrée dans la main et elle avait dû laisser ses enfants à... Alors, je ne sais plus si c'est Katzenelson ou Zeidman. Et donc,
on peut faire confiance aux poètes pour leur laisser ses enfants en garde en général.
Tout à fait.
je pense. Non, en tout cas, ouais, ça fait partie des petites histoires qui sont restées, que ta mémoire d'enfant a retenues.
Oui, voilà, des choses comme ça, ou ce qu'ils avaient mangé quand ils avaient pris le train. Et ça, c'était peut-être plus mon père quand même qui m'avait raconté, ou les deux, parce que souvent je les voyais ensemble, que mon père a mangé sa première banane ce jour-là, et qu'en fait, comme il ne savait pas ce que c'était, il avait mangé la peau aussi avec l'intérieur.
Tu parlais de ce poète. Est-ce que c'est un hasard, ou est-ce que le livre, l'écriture, la littérature était déjà présente dans ta famille, pour ta grand-mère, ou est-ce que tu t'en es rendu compte après?
Non, pas. C'est pas quelque chose sur lequel elle insistait spécialement. Je pense qu'elle était fière de connaître quelqu'un qui avait une certaine notoriété. Je pense que c'était plus de cet ordre-là, mais pas, peut-être pas spécifiquement quelqu'un qui était écrivain.
Et pour revenir un peu à la Palestine, ça veut dire que toi, dans ton enfance, elle vivait encore en Palestine. Toi, tu étais... Comment ça se passait, la géographie un peu familiale, quand tu étais enfant, adolescente, jeune adulte?
Pendant longtemps, mes grands-parents avaient, après la guerre, vécu un moment en France. Et puis, à leur retraite, ils étaient partis en Israël. Et moi, étant petite, je les voyais que pendant les vacances d'été, ou parfois je partais aussi en Israël. Et puis, au bout d'un moment, mes grands-parents sont venus s'installer en France. Et donc, je les voyais assez souvent à ce moment-là.
Vous étiez proche et vous voyez beaucoup.
Je crois que l'époque où j'ai été la plus proche de ma grand-mère, c'est quand mes parents ont divorcé. Et mes grands-parents, à ce moment-là, habitaient vraiment à 10 minutes. Ma mère avait déménagé, mais tout ça était finalement dans un mouchoir de poche. Tout ça était dans le 11e, entre mon père, ma mère et mes grands-parents. Et c'est une période où je suis vraiment beaucoup allée voir mes grands-parents avec ma sœur. On allait les voir une fois par semaine, toutes les deux. Ça nous faisait du bien, je crois, parce qu'on souffrait beaucoup de ne pas voir notre père suffisamment. Et je pense que ça faisait le lien.
Oui, c'était un espace un petit peu alternatif pour aller chercher peut-être un secours.
Et du réconfort et de la chaleur. Oui, de l'affection, en fait.
Et en ce qui concerne l'autre grand-mère, même si tu ne l'as pas connue, dans l'absence, il y a souvent aussi des choses qui restent, des révélations. Est-ce que tu sais qui elle était, cette grand-mère, Laïa, c'est ça?
Oui. Elle est très mythifiée, du coup. Ma mère était très proche d'elle. Elles avaient un rapport, je crois, assez fusionnel. Ma mère me racontait qu'elle s'appelait tous les jours. Et elle me disait souvent qu'elle regrettait que je ne l'ai pas connue. Elle disait que c'était vraiment une grand-mère très gentille. Et elle se disait que c'est vraiment ça manquait dans la constellation.
Un trou.
Voilà. Donc moi j'en ai souvenir de ça, quelqu'un de très gentil, quelqu'un qui portait la culotte, elle me disait. C'est-à-dire c'est vraiment elle dans la famille qui prenait les décisions. Et ma mère me disait d'ailleurs que c'était elle à ses yeux, elle trouvait que c'était une génération ces femmes qui avaient traversé la guerre. Qui parfois menaient un peu la boutique aussi, parce que ils étaient tailleurs, mais parfois ils avaient leur propre boutique, leur propre commerce. Et elle disait, c'était des femmes qui étaient très fortes et qui parfois menaient un peu la baraque. Et donc elle me disait que c'était un petit peu son cas, par exemple par rapport à son mari, mon grand-père.
Ouais, elle avait ce charisme, cette autorité.
Voilà. Mmh. Mmh.
Et cette grand-mère, tu disais qu'elle est aussi issue de Pologne, une famille juive, pour revenir aussi à l'espace un petit peu de la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle, pour eux, à ce moment-là?
Oui, alors eux, ils sont partis. En fait, mon grand-père est parti quand la guerre a éclaté, donc en septembre 1939, quand Varsovie a été bombardée. Mon grand-père est partie du côté envahi par les Soviétiques pour voir si c'était mieux de partir ou de rester, enfin, entre les nazis et voilà. Donc, il est parti en reconnaissance à Bialystok et il est revenu chercher sa famille. Il était déjà voilà, marié avec ma grand-mère. Ils avaient un enfant qui n'était pas ma mère, qui était son grand frère. Et ils sont partis avec aussi le père de la mère de mon grand-père, les parents de mon grand-père et le frère de mon grand-père. Donc, ils sont tous partis. Et en fait, ils ont vraiment été à différents endroits en URSS. Et donc, ils sont partis à Bialystok. Et à un moment, ils ont été déportés par les autorités soviétiques dans le Grand Nord. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de... C'est pas forcément très connu, mais il y a beaucoup... Je crois que c'est pas seulement des Juifs, mais des Juifs aussi. En fait, on leur demandait, est-ce que vous voulez devenir citoyen soviétique ? Ou est-ce que vous voulez revenir en Pologne ? Et ceux qui disaient « on veut revenir en Pologne » étaient considérés comme un facteur de déstabilisation. Et donc, en tout cas, c'est ce que j'ai lu. Et donc, ils ont été, certains d'entre eux ont été déportés dans des sortes de... Je pense qu'on peut appeler ça un goulag.
D'accord, dans des camps goulag en Sibérie ou...
C'était pas en Sibérie, non. C'était la République des Komis.
D'accord.
Très au nord, dans le okay. Grand Nord. Et donc là, alors c'était pas vraiment des camps, mais encore que si. Mais il y avait pas, ils étaient pas, il y avait pas de barbelés, mais enfin, ils avaient, s'ils partaient, ils savaient pas où ils pourraient aller. Donc d'une certaine manière, ils étaient quand même prisonniers, et donc ils devaient travailler, etc. Et donc ils sont restés là. Ensuite, quand le pacte germano-soviétique a été rompu, ils ont pu repartir et ils sont allés au Kirghizistan, je crois, Ouzbékistan, Kirghizistan, je ne sais plus très bien, mais j'en parle dans mon livre, mes souvenirs sont quand même plus frais. Et ils ont été un moment dans un kolkhoz. Et à un moment, donc, au Kirghizistan, ils sont restés quelques temps. Et quand la guerre a été terminée, ils sont revenus en Pologne. Et ils ne sont pas restés longtemps parce qu'il y avait encore des pogroms. Et ils ont trouvé le moyen, par un passeur, de partir en France. En fait, mon grand-père a fait... il y avait la Croix-Rouge qui faisait un travail de recherche des familles. Et grâce à cela, mon grand-père a su qu'il avait de la famille en France. Et grâce à cela, ils ont pu payer un passeur. Ils sont venus à Paris.
Du côté des deux familles, il y a quand même une traversée un peu incroyable et épique de cette période de la guerre avec une survie.
Oui, exactement. Oui, oui.
Dans Tout le monde n'a pas la chance d'aimer la carpe farcie, il y a cette phrase « Ma mère, c'est ma tendresse pour les objets qui ont connu d'autres vies avant la mienne ». Est-ce que tu conserves des objets de tes grands-mères, de l'une ou de l'autre ? Est-ce que tu as encore ça avec toi à la maison ?
Oui, oui. Ma mère m'a donné une boîte à bijoux qui est cassée, mais que j'ai gardée quand même, en métal. Je ne suis pas sûre qu'elle soit précieuse, mais je l'ai gardée quand même. Un cendrier en forme d'ourson qui était un petit peu abîmé. Qui est en cristal. Et un jour, en allant chez une amie, j'ai vu qu'elle avait exactement le même qui n'était pas abîmé. Et je lui ai demandé si elle voulait bien me le donner. Comme ça, j'avais le même, mais en neuf, mais qui gardait cette idée de ma grand-mère quand même. Et est-ce que j'ai d'autres choses ? Après, il y a ces histoires de légendes familiales dont je parle aussi dans le livre parce que je trouve que... Parce que ça me parle beaucoup en termes de transmission des histoires qui se racontent et comment ça peut nous influencer, même si c'est juste des histoires. Ma mère me disait qu'elle avait une cocotte minute que sa grand-mère utilisait et qu'un jour, elle avait du mal à la fermer et le couvercle avait volé dans la pièce et elle avait failli se faire un petit peu, se faire un peu trancher le cou. Mmh. Et donc, ma mère la gardait et l'utilisait pas et elle me l'a donnée. Et moi, en fait, j'ai dû l'utiliser une ou deux fois.
Elle t'a refilé le danger.
Voilà, et j'ai dû l'utiliser une ou deux fois, mais en fait, j'étais terrorisée. Donc, j'ai arrêté de l'utiliser, mais je l'ai quand même gardé.
Ça nous mène tout droit vers l'espace de la cuisine et avec ce couvercle. Voilà, c'est une dimension très, très importante dans le livre dont on parlait aussi, les recettes, le faire à manger, la transmission par cette voie-là. Est-ce que tu peux nous parler d'une petite recette phare, peut-être d'une des deux grand-mères ou de quelque chose qui te reste à la bouche?
Oui, oui, oui. Ma grand-mère Dina faisait très bien justement la carpe farcie que j'utilise pour le titre du livre. Je l'utilise aussi parce que c'est un petit peu le plat emblématique de la cuisine ashkénaze, en fait, des Juifs d'Europe de l'Est. Quand ils parlent de cuisine ensemble, il y a toujours un moment où on va parler de la carpe farcie. Parce que c'est un plat qui est très long à faire et qui ne remporte pas forcément l'adhésion de tout le monde.
Visuellement.
Visuellement et au goût aussi. C'est un petit peu, comment dire, c'est très aqueux comme consistance. C'est un petit peu sucré. En tout cas, la carpe farcie version polonaise est plutôt sucrée. Et c'est vraiment très particulier. Moi, la cuisine ashkénaze, globalement, je n'aimais pas comme beaucoup de... c'est pas forcément une cuisine qui est très séduisante au premier abord. Et au bout d'un moment, j'ai fini par l'apprécier aussi parce que je me disais que ça représentait aussi mes grands-parents, justement, et que peut-être qu'à un moment, plus personne ne ferait cette cuisine-là. Et pour le coup... Quand ma grand-mère faisait la carpe farcie, c'était vraiment... étant adulte, étant devenue étudiante, par exemple, vraiment, j'étais très contente quand elle en faisait. C'était vraiment une source de joie.
Oui, ça dépassait le cadre du plat. C'était aussi une trace de la mémoire familiale, de l'histoire familiale. C'était quelque chose qui avait un statut particulier.
Exactement, oui, oui.
Alors Élise, il est déjà l'heure de mettre fin à cette conversation grand-maternelle. Merci beaucoup d'être venue rendre visite à Albertine.
Merci beaucoup Valentin.
Merci à toutes et à tous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Albertine. Et on se quitte comme d'habitude avec un texte choisi et lu par notre invitée Élise Goldberg.
Merci Valentin. Donc je vais lire un extrait de « Tout le monde n'a pas la chance d'aimer la carpe farcie » qui parle de mes grands-mères et bien évidemment pas mal de cuisine. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents ashkénazes. Avec 4 grands-parents juifs polonais, j'ai fait coup double. Pour autant, à chaque aïeul, son frishti, comme si chacune avait récupéré les pages échappées d'un vieux livre de cuisine tout dépenaillé. À ma grand-mère paternelle, les schnitzel, escalope viennoise, la truite aux amandes poêlées, le consistant krupnik, soupe d'orge perlée, le gâteau de riz, la compote pomme-pruneau ou les nouilles au fromage blanc et à la cannelle pour terminer sans chichi. Mais, pour les grandes occasions, le leiker, orgueilleux cake au miel qu'elle réussissait à élever à des auteurs défiant tout panettone. Et elle corsait la difficulté, corvée serait plus juste. Elle s'usait à ciseler les plaquettes de chocolat pâtissier pour en émailler la pâte, érodant patiemment la plaquette au couteau. Ma grand-mère était travailleuse. Si l'on excepte le leiker, j'avais du mal à m'émerveiller, peut-être parce qu'elle préparait toujours les mêmes plats, peut-être parce que c'était des plats qui ne payaient pas de mine, servis dans des fleurs figées d'un archopal exténué. Ma grand-mère n'était pas un panier percé. À la mère de ma mère, le meigelet, coup de poulet farci, incisé, remplir avec la farce, puis ravauder. Impossible d'en faire aujourd'hui, m'avertit ma mère. Les poulets sont vendus, le coup déjà tranché. Du borsch de betterave servi froid pour rafraîchir les patates chaudes que l'on y trempait. La gebrente soupe, littéralement soupe brûlée, qualifiée plus élégamment de roussie. Ma grand-mère maternelle était rarement attablée. Elle piquait dans les plats qu'elle goûtait en les confectionnant. Manger et cuisiner étaient d'un seul tenant.